C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Hawick, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 9:04, Radio London Time, the station with kicks on 266.
Dans les années 60, les postes de radio de l'Europe du Nord vont vibrer de nouvelles voix, de nouveaux sons, de nouvelles musiques. On les a appelés Offshore Radio, Pirate Radio ou Marine Broadcasters. Mais quelles que furent les expressions par lesquelles on les désignait, ces DJ de la haute mer, qui opéraient depuis des bateaux ou des forts marins abandonnés, ont écrit d'incroyables pages d'aventures radiophoniques et maritimes.
Depuis les années 50, seule l'Europe connaissait le phénomène des émetteurs marins de radiodiffusion. Mais le 4 décembre 1966, la Nouvelle-Zélande voit apparaître sa première station offshore, Radio Oraki. Cette initiative va-t-elle en inspirer d'autres ? En Grande-Bretagne, Radio 390 est la première victime de l'offensive gouvernementale. La station se trouve sur un fort dont la justice a admis qu'il est dans les eaux territoriales. Il est clair que les émetteurs situés sur des forts seront les premiers visés. Car pour les atteindre, le gouvernement n'a pas besoin de la loi anti-radio offshore. Il lui suffit juste d'utiliser certaines dispositions de la loi internationale sur les frontières maritimes.
Georgie Fame and the Blue Flames on Radio Hauraki in the song called Getaway. One minute to six, just 1 minute away from our very, very first breakfast show with Paddy O'Donnell. Bob Leahy here, broadcasting to you live from the MV Turi, and I'd like to say thank you for sticking around and waiting for us, and when we finally get going with our regular breakfast, well, regular programs, the first one we're going to do this morning, of course, is our breakfast program. On behalf of everybody here on board the Turi, I'd like to say a very, very big welcome to Radio Hauraki.
Après Radio 390, c'est BBMS, Britain's Better Music Station, qui est victime de l'offensive gouvernementale. Là aussi, les magistrats ont estimé que Fort Knockjohn est bien dans les eaux territoriales. Ils ont assigné une amende à Roy Batts, mais ont rejeté la demande de saisie du matériel radio formulée par le ministère des Postes. Tout en faisant appel, BBMS avait poursuivi ses émissions. Mais la radio, qui avait déjà très peu de recettes publicitaires, ne séduisait pratiquement plus aucun annonceur. En décembre, les DJ n'étaient plus payés et le fort de moins en moins alimenté. Ainsi, vers 16h30 le 25 décembre, BBMS cessa ses émissions. Une partie de l'équipe entreprit de transporter le matériel sur Rough Tower, un fort qui se trouvait clairement au-delà de la limite des 3000. Mais le lieu était déjà convoité par d'autres. Le 11 août 1965, Rough Tower avait déjà reçu la visite d'une équipe de Radio Caroline, qui voulait soi-disant le transformer en un centre de loisirs et un établissement de santé. Plus vraisemblablement, il s'agissait de créer une base d'approvisionnement pour le Miami Go. Durant leur séjour, les occupants avaient démonté la partie supérieure du fort pour y aménager une piste d'atterrissage pour hélicoptères. Puis l'équipe de Caroline avait quitté l'endroit. Et fin décembre, Rough Tower était à nouveau apparemment abandonné quand Roy Batts décida de s'y installer. Toutefois, les choses n'allaient pas en rester là.
Taking us on to this section of the program, the dynamic voice of Dusty Springfield with a song called All I See Is You, her latest and most current big hit success in the charts and doing very well indeed. It's 20 minutes after 12 o'clock now, Sunday wise, on our music magazine for a Sunday from BBMS, Britain's Better Music Station. And today's a rather nice day, actually. It's sunny and, I won't say warm, it's a bit nippy. But nevertheless, it's a fairly calm day. Actually, we had expected seeing our tender out today, but we haven't, so we're all disappointed, bitterly disappointed. And maybe that'll come later on during the day, although I think we've just about had it now for the day. Maybe tomorrow. And meanwhile, here's a tune from Chet Atkins.
Radio 390 revint sur les ondes le 31 décembre, après que son appel ait pourtant été rejeté le 12 décembre. Le tribunal avait suggéré à la société Estuary Radio de porter l'affaire devant la Chambre des Lords. Mais Ted Albury avait écarté cette possibilité. Pourtant, le 31 décembre, les responsables de la station affirmèrent qu'ils disposaient de nouvelles données, prouvant que Red Sanford était au moins à 1,5 mille au-delà des eaux territoriales. Selon eux, le banc de sable de Middle Sand, qui avait été pris pour référence afin de calculer la distance entre la côte et le fort, n'est jamais totalement mis à jour à marée basse. Ainsi, ils considèrent que ce n'est pas de cet endroit que l'on doit calculer la limite des eaux territoriales, et que la station est donc au-delà de cette limite. Les émissions redémarrent à minuit.
The time now 12 o'clock, midday. Radio 390, your friendly family station, invites you to join us for lunch break.
On a aujourd'hui du mal à imaginer ce que pouvaient être ces radios offshore. Il est vrai que le contenu de leur programme est similaire à celui des radios musicales FM actuelles. Mais pour les auditeurs de l'époque, elles constituaient une réelle nouveauté. Ce qui reste le plus surprenant, et sans doute aussi le plus fascinant, ce sont les conditions dans lesquelles vivaient ces radios. Un excellent article paru dans Le Monde du 19 janvier 1967, intitulé « La navigation immobile » rend compte de la singularité du monde des stations offshore. Le journaliste Maurice Denusière relate son périple à la rencontre des DJ de la haute mer. Rendre visite aux pirates des ondes, véritables ermites de la mer, n'est pas chose aussi aisée qu'il paraît à première vue. 3 heures de train de Londres à Ipswich, une demi-heure d'autocar d'Ipswich au port, 2 heures de mer sur l'Offshore One, un petit cargo rouillé battant pavillon hollandais qui roule et tangue dans la brume pour aller porter chaque jour aux animateurs de Radio London et Radio Caroline Sud l'eau potable, les vivres, le courrier, le mazout et assurer aussi parfois la relève du personnel, tel est l'itinéraire à suivre. Il est connu par les autorités britanniques et surveillé par les douaniers de Sa Majesté qui, à chaque retour du ravitailleur, procède à une fouille minutieuse. Pour qui ne craint pas le mal de mer et sait déguster sur le pouce le fromage de Chester au cumin, accompagné de bière, la promenade est vivifiante. Au bout d'une heure et demie de navigation, on aperçoit, ancrés à quelques milles les uns des autres, 3 bateaux surmontés de mâts métalliques disproportionnés de 30 à 40 mètres de hauteur, qui indiquent que ces innocents navires sont en fait des stations émettrices de radiophonie. Telles les unités d'une escadre, Radio Britain, Radio London et Radio Caroline, rivaux unis cependant une même obstination à vaincre le monopole de la BBC, peuvent communiquer par signaux optiques. Une fois le transbordement opéré, l'état de la mer en cette saison rend quelquefois l'opération délicate, l'accueil est chaleureux à bord du cargo Miamigo, dont le pavillon panaméen dit assez l'indépendance. 16 personnes vivent à bord, 10 marins hollandais, 4 disques jockeys, présentateurs de disques, un newsman, speaker annonçant les nouvelles, et un technicien radio. Si les marins hollandais sont pour la plupart d'âge mûr, les animateurs de la station Radio Caroline n'ont pas plus de 20 ans. Entre les yéyés contraints au séjour maritime et les hommes de la mer condamnés à cette navigation immobile qui consiste surtout à surveiller l'ancrage et à orienter le bateau pour rechercher les moindres effets de la houle, l'entente est excellente. Plus loin, Maurice Denusière poursuit. Les disques jockeys, qui reçoivent tous les jours une centaine de lettres chacun, doivent consacrer plusieurs heures chaque soir au courrier. Les messages d'inconnus qui félicitent, encouragent ou demandent des disques sont appréciés sur le bateau. Il constitue pour cette équipe isolée plus qu'un lien amical, une preuve que ce qui se passe sous le pont du Miamigo, sorte de navire fantôme immobile dans les brumes, relève bien de la réalité. Car le visiteur, surtout s'il a passé l'âge des enthousiasmes yéyés, connaît à bord une bizarre sensation. Ces gens qui gesticulent devant un micro, dans un studio dont on peut toucher le plafond du doigt et qui est animé d'un doux balancement, ces garçons vêtus de chemises roses, de costumes blancs à carreaux ou de pull-overs trop longs, soucieux d'une inutile élégance, cette musique qui paraît un peu folle dans les coursives qui ont dû retentir sous d'autres latitudes des échos des chansons de marins plus virils, tout cela tient un peu d'une vision surréaliste.
Really, 19, hang on here. She is gorgeous. 5'4" tall, blonde hair, blue eyes, and Swedish, right? You know what I'm going to do? I'm not going to give her a dress because I'm going to write to her myself. Because she's Swedish. No, no, really, I will. I wouldn't do that to you. You know better than that. Right. What's her name now? I bet it's a funny Swedish name. I wouldn't be able to say it. Oh, no, it's all right. No, really, I'll read the letter first. Says, my name is Carol Mills, I'm 5'4" tall, have blonde hair and blue eyes. I come originally from Sweden, and I've been in England for 4 years. My hobbies are horse riding, collecting LPs, what's this? Loves LP covers, is that right? And beer mats, which I put on my bedroom wall. My occupation is a window dresser, and I love Micah Hearn. That's very cool there, darling. I love you too there. I love you, darling. She was Swedish, right, fellas? You know what they say about the Swedish girls, don't you? Yes, indeed, they do. Yes. Yes, yes, yes. Anyway, Miss Carol Mills, right? Miss Carol Mills of 13. Oh, my goodness. Crowland Street. 13 Crowland Street. Crowland, Crowland Street. Blowick. B-L-O-W-I-C-K.
Le lendemain, dans le même quotidien, Maurice de Nuzière résume très bien l'ambiance politique autour de cette question. La situation est donc complexe, et nul ne peut nier que les stations de radio pirates ont maintenant en Grande-Bretagne une existence de fait. Les mois et les années qui passent leur ont donné, à travers la masse de leurs auditeurs, une autorité occulte qu'il est malaisé de réduire. Contrainte d'envisager une plus large diffusion de pop musique, la BBC semble admettre que les pirates ont su répondre à une demande réelle de la jeunesse, qu'il va falloir maintenant reconquérir. Tandis que le Parlement, soucieux de ne pas déplaire à la tranche la plus dynamique de la population, tergiverse, et que le gouvernement, ne voulant être ni tolérant ni énergique, est tenu en échec par des hommes d'affaires qui ne respectent plus les scrupuleuses traditions de la City, et par une poignée de jeunes gens narquois qui n'engendrent pas l'antipathie du public. L'Angleterre, nation maritime, aura du mal à gagner cette bataille navale d'un genre nouveau.
L'offensive du gouvernement se poursuit, mais vise pour l'instant surtout les radios installées sur des forts marins à l'intérieur des eaux territoriales. Après avoir réussi à faire condamner Radio 390 et Radio Essex BBMS, c'est maintenant Radio City qui est dans le viseur. Sa directrice, Madame Dorothy Calver, a reçu le 31 janvier 1967 une citation à comparaître pour infraction à la loi sur la télégraphie sans fil. Le mercredi 8 février à 23h, Radio City débute sa dernière heure d'émission. Paul Kramer, Alan Clark, Ralph Cooper et presque tous les DJ sont dans le studio. 10 jours plus tard, le tribunal validera une condamnation de Madame Calvert.
And as you've probably heard, ladies and gentlemen, our managing director, Mrs. Dorothy Calvert, was fined £100 today at Southend and has stated that she'll not appeal against the findings of the case, which means tonight, of course, at midnight, Radio City goes off the air for the last time, apparently, because we're operating within territorial waters. And during the next 60 minutes or so, through until that final hour of midnight for us at any rate, we'll be talking to all the various disc jockeys on duty at present on the station. That's Alan Clark, Ian McRae, Paul Kramer, and RWB. And I think that perhaps at this time you might like to meet the boys off duty, as it were, and find a bit more about them on Radio City, away from the turntables. And we have all the lads, in actual fact, in the studio right now, all the DJs. We have Alan, we have Ian, and we have Ross, and not forgetting Paul. I don't know who's going to start off the conversation. I would explain to you that I'm in a different part of the studio and they're sort of just behind me and I can't really see what they're doing, but I'll switch up the switch, lads. Don't say anything naughty because you're on the air, okay? You're on. Who's going to start off the findings?
Alan. Alan. We've elected Alan.
Okay. Alan, well, let's go forward, lads. If I can fire the first question at you, Alan, a lot of people...
Dans le billboard du 18 février, on apprend la nomination de Robin Scott à la tête du futur programme que la BBC compte ouvrir à la rentrée 1967 pour remplacer les radios offshore. Scott a affirmé vouloir créer une radio résolument moderne et n'a pas hésité à inviter les DJ des actuels navires à venir rejoindre le projet. Mais les stations concernées continuent à évoluer comme si de rien n'était. Ted Albury a quitté Radio 390 pour rejoindre le laisser-faire. Il explique son départ. Je crois sincèrement qu'un navire a plus de potentiel que les forts. Les forts sont constamment harcelés par le gouvernement. Je n'ai pas réussi à persuader mes actionnaires de prendre un navire, et je suis donc paralysé pour continuer. En réalité, le désaccord entre Albury et ses actionnaires ne porte pas uniquement sur un transfert ou non de la radio vers un bateau. Des offres de rapprochement entre Britain Radio et 390 avaient été faites, mais les bailleurs de fonds de Estuary Radio n'avaient pas souhaité donner suite, alors que Ted Albury y était favorable. En effet, la situation de Britain Radio n'est guère plus enviable que celle de sa défunte sœur Swinging Radio England, déjà disparue. Ted Albury rejoint donc Britain Radio. Visiblement, les Américains commencent à comprendre qu'il faut peut-être faire confiance aux Anglais pour diriger une radio destinée à un public anglais. Albury propose d'introduire un format identique à celui de Radio 390, une alternance de styles musicaux différents toutes les 15 ou 30 minutes. Jack Curtis, dirigeant américain de Britain Radio, qui ne va pas tarder à quitter le navire si l'on peut dire, a qualifié ce format de Stone Age Radio, radio de l'âge de pierre. On ne se refait pas. En réponse, Ted Albury a qualifié les choix précédents de Britain Radio de Lucky Dip, pochette surprise. Toutefois, si Ted Albury considère qu'un navire ne sera pas harcelé par le gouvernement, il va découvrir bien vite que la météo peut aussi être une source d'ennui. À la fin du mois de février, des marées de printemps précoces et un coup de vent de force 9 chahutent sérieusement le laisser-faire, et son mât de transmission n'y résiste pas, réduisant au silence Britain Radio et Radio Dolphige. Le 7 mars, le laisser-faire prend la direction du port de Zaandam en Hollande pour réparer les dommages subis. Mais à peine sur le quai, les autorités néerlandaises montent à bord et mettent sous scellé le studio et le matériel de transmission. Pierre Vic, la société qui exploitait le navire, fut mise en redressement judiciaire. Et certains des premiers bailleurs de fonds constituèrent une nouvelle société, Laissez-faire Limited, qui attribua la gestion des deux stations de radio à Ted Albury et sa nouvelle société, Carsted Advertising. Dans les premiers jours de mars, les deux stations revinrent sur les ondes. Britain Radio est devenu Radio 355.
I'd also like to remind you that at 2 o'clock today, you can listen to Children's Sunday Storytime, and where we normally have our children's spot at 4 o'clock, today is the Jim Reeves Spotlight. That's the Jim Reeves Spotlight today 4 p.m. to 4:15 p.m. Well now, we're calling on the Berry family of Maidstone. Mr. and Mrs. J. Twerker of Hornchurch, Essex, want to send you every good wish for your forthcoming journey abroad. And to help you on your way, here's Mantovani with Greensleeves.
Radio Dolphinch, quant à elle, est devenue Radio 227. Elle s'adresse toujours au public néerlandais, mais a adopté un format Top 40 pour concurrencer l'historique Radio Veronica. Pour enrichir son antenne sans engager la moindre dépense, Radio 227 est allé rechercher les premiers jingles qu'utilisait sa lointaine ancêtre Swinging Radio England et les a, si l'on peut dire, bricolés comme Radio Caroline l'avait fait en son temps avec la même source.
Laatste keer dat hij in onze Fab 50 stond, stond hij op de 34e plaats. Deze geweldige plaat van die outsiders uit Amsterdam. Uiteraard onze eigen Nederlandse outsiders. And the summer is here. Ja, het is zo langzamerhand tijd om op te staan. Het is, eens even kijken, precies 6,5 minuut over 7:30. En inderdaad, een goedemorgen en eet smakelijk.
Good morning, the world is bright and new.
It is.
You're always right with Swingin' Radio
227.
Ja, het is inderdaad buiten geweldig mooi weer. En ook bij u zal het vandaag enorm warm worden. Van 23 tot 30 graden omstreeks die... Ja, omstreeks die tijd, ja. Omstreeks 3 graden, dacht ik. Goed, en het is inderdaad een klein beetje erg warm. Goed, het is zomer, we hebben het nodig gehad na die geweldige koude winter. En ik dacht, ja, we kunnen eigenlijk wel verder gaan met een plaatje. Goed, in ieder geval een goedemorgen. Uw gastheer Luke Mode, wens u dat. En,
Le 13 mars, ce sont les responsables de Radio Scotland qui se retrouvent devant un tribunal pour émission d'un programme radio à l'intérieur des eaux territoriales. Les ingénieurs des postes ont écouté la station depuis 3 endroits sur la côte d'Ayrshire et ont déterminé que le bateau se trouvait dans les eaux territoriales, si l'on calcule la limite en se basant sur le sous-sol marin et non sur les frontières terrestres visibles. Le navire étant ancré à environ 6 milles de la côte, l'avocat fit valoir que les responsables de la station pensaient réellement être dans les eaux internationales. Néanmoins, face aux arguments de l'accusation, ils plaidèrent coupables et Radio Scotland cessa ses émissions en attendant que le bateau soit déplacé vers un autre lieu de mouillage plus à l'est de la côte écossaise. Malheureusement, le mauvais temps s'en mêla et le Comet fut contraint à l'immobilisme au large de Tron pendant 15 jours. Au début du mois d'avril, alors qu'il est toujours au même endroit, le navire rompt ses amarres, pris dans une très forte tempête. Un remorqueur le sauve de la dérive et l'emmène jusqu'au large de la ville de Rothesay. Bien évidemment, les émissions ne peuvent reprendre. Et le 7 avril, alors que la station est silencieuse depuis près de 3 semaines, la direction s'inquiète des conséquences sur les auditeurs, mais aussi et surtout sur les revenus publicitaires. Il fut décidé de remorquer le navire radio au large de Ballywalter sur la côte nord-irlandaise. Le lendemain, les émissions reprirent sous le nom Radio Scotland and Ireland, puis le nom fut changé en Radio 242.
Serving central Scotland and all of Ireland, this is Radio 242.
Quelques semaines plus tôt, le 19 février, les bases d'une association représentant les auditeurs des radios offshore ont été posées. Des représentants de Radio Caroline, Radio Scotland, 390, 270 et London ont assisté à cette première rencontre. Début mars, la Free Radio Association a été lancée dans le but de fédérer la contestation. Les stations concernées ont commencé à diffuser des messages incitant les auditeurs à rejoindre la FRA. Bientôt, l'adresse de l'association devint très familière pour qui écoutait les stations offshore, 239 Eastwood Road, Rayleigh, Essex. Le mot d'ordre était « Fight for Free Radio » et une pétition ne tarda pas à être lancée. Elle débutait par ce texte. La Free Radio Association se bat pour la liberté d'expression, la libre entreprise et le libre choix. Le gouvernement essaie d'écraser toute concurrence sur les ondes en réduisant au silence les stations commerciales, préservant ainsi le monopole de la BBC et nous privant de la liberté d'écouter les stations de notre choix. C'est un pas vers la dictature. Si le projet de loi sur la radiodiffusion maritime devient loi sous sa forme actuelle, la liberté d'expression sera supprimée et la Free Radio Association sera partiellement réduite au silence. Cela plairait sans doute au gouvernement. Mais le gouvernement ne nous réduira jamais complètement au silence. Nous avons promis de nous battre et de gagner. En avril, alors que le projet de loi anti-radio offshore passe en seconde lecture au Parlement anglais, le Tynwald, qui est le Parlement de l'île de Man, refuse d'examiner le texte. C'est le début d'un bras de fer engagé avec Londres. Il y a plusieurs raisons à cela. Si le navire de Radio Caroline North avait été accueilli avec une certaine hostilité en juillet 1964, les choses ont bien changé. La radio est devenue très populaire sur l'île et elle n'a jamais été avare de publicité gratuite pour les stations de vacances manoises. Caroline est clairement devenue une pièce maîtresse dans la promotion du tourisme sur l'île. Mais surtout, les parlementaires manois voient en cette loi une opportunité pour exprimer leur désir d'autonomie politique par rapport au pouvoir central. Le 28 mai, des centaines de personnes défilent entre Trafalgar Square et Fleet Street pour protester contre le projet de loi anti-radio offshore, dénonçant une démarche liberticide et une atteinte grave à la diversité proposée par les stations côtières. Le 13 juin, la loi passe en troisième lecture au Parlement. Il ne lui reste plus qu'à obtenir la signature royale, une formalité. Elle devrait donc entrer en vigueur dans le courant du mois d'août.
How the Small Faces is a song written by Kenny Lynch, among others, and it's called Shalalalalee, 10 minutes before the hour of 8 o'clock on the breakfast program. And I know I have one listener this morning, Mr. Paul Kay, who got on the plastic string intercom and said, in a very kind of TW voice,
"How dare you?"
I go on till 11:30 tonight, ladies. And so he sort of, you know, I said, well, I'm very sorry, you know. He said he'd smash me around the face with a dwarf tree if I didn't tell you that he'll be on till 11:30, not 11 o'clock. The Paul K portion of the Peter Stuyvesant Show on till 11:30 tonight. Well, don't care if I do it, you know.
He's a real nowhere man.
Yeah?
Sitting in his nowhere land.
But he smokes Peter Stuyvesant, friends.
Le 27 juin 1967, un incident se produisit sur le fort de Rough Tower et l'on faillit bien connaître une nouvelle tragédie. On le sait, Radio Caroline avait des ambitions sur cet endroit et l'avait brièvement occupé durant l'été 1965. Roy Batts, ex-dirigeant de BBMS, Britain's Better Music Station, s'y était installé avec sa famille. Mais aucune radio n'avait repris d'émission de cet endroit. À mesure que la menace du Marine Broadcasting Offense Act se précisait, Rough Tower redevenait un lieu stratégique pour approvisionner le Miamigo, voire accueillir la radio. Ainsi, vraisemblablement, au début du printemps 67, une équipe de Radio Caroline fit le coup de force et reprit l'endroit. Mais les hommes de Roy Batts parvinrent à les déloger et à s'y réinstaller. Le 27 juin, le ravitailleur Offshore 2 partit de Harwich à destination du fort avec à son bord une équipe de Radio Caroline, afin à nouveau de tenter d'expulser Roy Batts et son groupe. Un occupant du Offshore 2 parvint à s'accrocher à l'échelle de corde d'accès au fort. Mais le ravitailleur fut alors bombardé de projectiles et même d'une bonbonne d'essence qui déclencha un incendie à bord. Le bateau reflua sans avoir pu récupérer l'homme toujours accroché aux cordes. Il resta près de 3 heures dans cette position inconfortable et périlleuse car les hommes de Roy Batts refusèrent que le navire se rapproche pour le récupérer. Il fallut l'intervention du canot de sauvetage de Walton-on-the-Naze pour le délivrer. C'était les DJ de la haute mer, 17e épisode.
The Settlers.